chaque tasse de café regorge d'histoires merveilleuses. Découvrez un univers fascinant à travers le partage de l'immense savoir de producteurs rencontrés aux quatre coins du monde par Café Cholo. L'histoire qui suit m'a été racontée en Bamoun, la langue du peuple camerounais du même nom. D'abord, Père l'a racontée d'une seule traite. Puis, il l'a racontée à nouveau, en faisant des pauses, pour que ses enfants et ses neveux la traduisent. Nous étions exactement à l'endroit où s'est déroulée cette histoire. Et c'est ainsi qu'elle m'a été transmise. La terre est noire, fertile. Elle porte encore la mémoire de la vieille éruption volcanique du mont Bapit. Malgré la saison sèche, malgré les feux de brousse, la végétation renaît inlassablement. Nous sommes juste au nord de la grande forêt du Congo, également connue comme le second poumon de la terre. Père dit que depuis que les Allemands ont offert des pieds de café au roi Njoya, le roi Bamoun, en 1901, le café s'est enraciné. À partir de 1915, les Français, devenant plus influents dans la région, dans un contexte de guerre, ont introduit une seconde variété. Alors, le café est devenu une richesse, une fierté, l'avenir. Père est né en 1947. Son père, donc grand-père, avait beaucoup d'animaux chez lui. Et il travaillait pour un homme blanc installé dans la plus grande maison du village. Les enfants de ces derniers adoraient monter les chevaux de grand-père. Ces bonnes relations lui permirent d'obtenir quelques pieds de café qu'il planta chez lui. Mais un matin, des policiers sont arrivés. Père avait 6 ou 7 ans. Ils ont déraciné les caféiers, puis ils ont emmené grand-père en prison, juste pour avoir possédé du café. À l'époque, seuls les Blancs avaient ce droit-là. Ironie du sort, quelques mois plus tard, tout change. Le marché est demandeur. Soudain, il faut produire du café. Beaucoup de café. Alors, ceux qui n'avaient pas le droit d'en planter furent encouragés à le faire par des programmes gouvernementaux et associatifs. La route principale, toujours bien en place de nos jours et bien rectiligne du sud au nord, a été construite par l'administration coloniale. Les plantations de café florissaient de part et d'autre de la route pour optimiser le flux de transit. Et on faisait tout à la main. Les feuilles de bananier étaient arrangées pour maintenir la terre et servir de pot aux jeunes plants. On écrasait les cerises rouges du café avec des pierres pour en sortir les précieux grains. On lavait le café dans des paniers tressés qu'on plongeait directement dans le marigot, le fleuve, seulement quelques secondes à cause du gros débit. On le séchait sur des nattes en osier. Père ajoute qu'on demandait aux cueilleurs de récolter seulement les grains mûrs, mais qu'il n'y avait pas vraiment de contrôle. Avec l'argent du café, une équipe de foot a même été créée au village. Des familles venues de toute la région venaient s'installer et Père dit qu'il n'y avait pas d'autre activité que le café. Puis, les années 70 arrivent et tout bascule à nouveau. Crise mondiale, concurrence des pays asiatiques, les capitaux étrangers, notamment français, qui n'avaient plus les mêmes avantages qu'avant l'indépendance de 1960, cessent d'investir au Cameroun et dans les pays voisins. Sans débouché, les plantations sont abandonnées. L'outil productif est devenu désuet, les prix se sont effondrés et rien n'a changé. Un ancien agriculteur devenu taxi m'a dit qu'il y avait 5 sacs de café chez lui, qu'il les garde et il attend que les prix remontent. Le café a été remplacé par du maïs, du manioc, des avocats et par beaucoup de légumes exportés dans toute l'Afrique. L'histoire de papa se termine et laisse place à des discussions animées, à d'autres histoires inventées, vécues, rêvées, un peu de tout en même temps. Depuis quelques années, des jeunes reviennent au village. Beaucoup étaient partis en ville, mais elle ne leur a pas apporté ce qu'ils espéraient. Alors ils reprennent l'activité des anciens avec une idée simple, miser sur une filière.